Histoire de voix, une série des médias francophones publics, présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.
Lorsqu'elles chantent, elles inspirent, enflamment ou apaisent. Ce sont les voix de l'espoir, les voix de la colère qui éveillent les esprits, les voix de la réconciliation qui tendent la main. C'est aussi parfois une voix qui donne tout simplement envie de se tourner vers les étoiles.
Je la vois déjà, cette étoile dans la nuit. Je l'entends déjà, cette voix qui me poursuit. Elle me dit, viens cueillir la vie. Je suis femme, musique et amour, rien. Oui, mais comment, comment vous le dire? Nous de la terre, on ne sait pas. Car maison, travail savent nous retenir. Alors comment vous appartenir? Mais l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique vient crouler, mon amour. Ne me laisse pas la main. Depuis les temps qu'on se cherchait. Je la vois déjà, cette étoile dans la nuit. Je l'entends déjà, cette voix qui me poursuit. Elle me dit, viens cueillir la rose. Je suis poème, source et chanson, viens. Oui, mais comment, comment vous le dire? Nous de la terre, on ne sait pas. Car finance et guerre savent nous retenir. Alors comment, comment vous suivre? Mais l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique veut m'écrouler, mon amour. Ne me laisse pas la main depuis le temps qu'on se cherchait. L'Amérique, l'Amérique, l'Amérique peut bien trouver mon amour ne me laisse pas demain depuis le temps qu'on s'appelait. Mais l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique peut bien trouver mon amour ne me laisse pas demain depuis le temps qu'on s'attendait, qu'on se cherchait.
La voix de Nina Simone se reconnaît dès les premières notes. La mélancolie et la colère de l'enfance ont donné à la grande prêtresse du soul son timbre chaud aux inflexions tantôt caressantes, tantôt cassantes. Le biographe Frédéric Adrian.
Dès qu'elle est toute petite, elle commence à essayer le piano à la maison, l'orgue à l'église, et elle a probablement l'oreille absolue, donc elle a une grande capacité à reproduire ce qu'elle entend. Même en ayant entendu les choses quelques fois, elle a la capacité de rejouer très très vite. Donc très très vite, dans son petit, la petite ville où elle habite, elle est identifiée comme le jeune prodige, on va dire. La jeune musicienne avec un potentiel particulier, au point que des dames de la bonne société, on va dire, de la bonne société blanche, pour être totalement transparent, décident qu'il y a quelque chose de plus et que ça mérite d'être cultivé, et donc lui paye des cours de musique avec la prof de musique de la ville. Ses parents sont relativement pauvres, et les gens chez qui elle va travailler ou pour qui elle fait de la musique sont relativement riches. On lui rappelle quand même de temps en temps sa place. Il y a l'anecdote bien connue du concert qu'elle fait alors qu'elle est encore enfant et où ses parents se sont installés devant. Et juste au moment où elle commence à jouer, on vient dire « Non, mais ça serait mieux que vous vous mettiez derrière et qu'on mette des gens plus présentables au premier rang. » Et où elle refuse de jouer tant que ses parents n'ont pas pu reprendre leur place. Donc elle a conscience, elle a le fantasme d'être la première instrumentiste classique afro-américaine. Alors, c'est pas complètement vrai parce qu'il y en a déjà. Peu, mais ça existe déjà. Et ça marchera pas. Ça marchera pas, cette histoire. Mais elle a beaucoup construit son projet de vie autour de cette histoire. Elle prend quelques cours de musique dans des écoles un peu prestigieuses. Et son idée, c'est d'aller dans une grande école de musique classique qui s'appelle le Curtis Institute, qui est à Philadelphie. Et donc, elle passe le concours. Et elle est pas prise. Elle est pas prise. Alors, on n'a pas les résultats objectifs. On n'a pas les notes du jury, etc. Mais c'est une école qui est extrêmement sélective, sur laquelle ne sont pris que quelques personnes chaque année. Il est possible qu'elle ne soit pas une musicienne classique aussi bonne que ce qu'on lui dit. Après tout, des gens qui l'ont dit, c'est des profs dans son petit village, etc. C'est pas des grandes personnes. Quand elle a été faire quelques cours d'été dans à Juilliard, les avis de ses profs sont mitigés. Ils disent qu'elle est bonne, mais elle n'est pas exceptionnelle en tant que pianiste classique. Elle, elle interprète cet échec, donc le fait qu'elle ne soit pas prise dans cette école, uniquement sous le prisme du racisme. It's the diamond ring turns glass, Papa gonna buy you a looking glass. If that looking glass gets broke, Papa's gonna buy you a billy goat. If that billy goat won't pull, Papa's gonna buy you a cotton bull. Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird.
1991. Nina Simone a 57 ans. Au micro d'Ève Ruggieri, le regret et la tristesse n'ont pas quitté la chanteuse.
J'ai commencé à étudier le classique à 5 ans.
À 5 ans.
5 ans.
Et vous avez continué, vous avez eu vos diplômes.
J'ai continué pour 22 ans et après j'ai obtenu,
c'est parfait.
Le doctorat de musique de Amherst, Massachusetts. Et le diplôme de Humanities à Malcolm X College dans Chicago.
Et là, vous avez décidé de chanter parce que je crois que c'était quasiment impossible de faire une carrière dans le classique lorsqu'on était noir.
Yes, they refused me at Curtis Institute in Philadelphia. They refused a scholarship of mine and they didn't give me the opportunity to start as a black classical pianist. I was refused a scholarship because I was black.
Aujourd'hui, vous êtes une très très grande vedette, reconnue dans le monde entier. Mais est-ce que quelquefois vous regrettez cette carrière classique que vous n'avez pas pu faire?
Yes, I regret it. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I think I would have been happier. I'm not very happy now.
L'ex-ministre française, Christiane Taubira.
Alors, je dirais que ce qui me plaît d'abord, ce qui m'a plu lorsque j'étais étudiante et que j'ai découvert Nina Simone, son répertoire et son histoire, c'est cette colère qu'elle refuse de dompter et qu'en même temps, elle dompte. Elle refuse de la dompter dans la mesure où, jusqu'à la fin de sa vie, elle avait prédit elle-même qu'elle mourrait à 70 ans, jusqu'à la fin de sa vie, c'était une personne coléreuse. Donc, elle a entretenu la flamme de cette colère. Et c'est une colère qui vient de sa préadolescence. C'est une colère qui vient du racisme qui lui a interdit de faire une carrière pianiste classique. Donc, Nina Simone entretient cette colère. En même temps, elle dompte cette colère. Dans des concerts, Nina Simone est capable de prendre à partie le public. Donc, elle laisse affleurer sa colère. Et en même temps, elle dompte la colère parce qu'elle fait au public le cadeau sublime de son talent, aussi bien au bout de ses doigts au piano que dans sa voix.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peu souliers qui s'enfuient déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfuirai des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Au début des années 80, c'est par l'exil que la voix chantée d'Angélique Kidjo s'échappe de la dictature béninoise.
le traumatisme d'un régime dictatorieux, c'est... On ne peut même pas s'en rendre compte. On ne peut pas... C'est l'être humain qui est détruit, quoi, dans sa teinte, dans ce qui est fondamental. C'est la peur que ça nous cause et qui nous interdit de réagir. Donc, pour moi, chanter a toujours été cette urgence que j'ai ressentie parce que quand la dictature a commencé, j'avais 12 ans. Une gamine de 12 ans qui a grandi dans une maison, on lui dit « Parle. Si tu ne parles pas, on ne peut pas lire dans ta tête. » Et du jour au lendemain, pour parler à ton père, il faut aller s'enfermer dans une chambre et être sûr qu'il n'y a personne qui t'écoute. Tu prends le téléphone, tu ne sais pas qui est au bout, tu ne peux plus parler. C'est-à-dire que tu deviens prisonnier dans ta maison. Et les gens que tu penses être tes amis deviennent tes ennemis parce que tout le monde a peur et ils préféreront dire quelque chose de faux sur toi pour pouvoir vivre. Et ça détruit les gens sur le long terme.
Pouvez-vous me raconter le jour de 1983 où vous décidez de fuir le Bénin, en fait, pour que votre voix puisse chanter librement?
Le raconter maintenant, c'est toujours un peu difficile parce que j'ai fui la dictature et je vois la dictature s'installer un peu partout. J'avais une cousine Delphine qui se mariait et puis ils ont demandé à mes parents, par hasard, par pur hasard, d'être les témoins de leur mariage. Donc du coup, mon père dit, ça me donne le temps pour mettre de l'argent de côté pour que tu partes. Parce qu'elle habitait à pas loin de l'aéroport. Donc mes parents ont fait de telle sorte de parler très bien de ce mariage qu'on va faire. On va aller faire la fête à côté de l'aéroport, machin et tout. Et le mariage de ma cousine, c'était le prétexte parfait pour mes parents pour pouvoir me faire partir. Parce que même s'ils avaient eu l'argent, ce n'était pas un prétexte. Quelle est la raison pour laquelle on sort de la maison tard le soir avec moi dans la voiture, même sans valise? Il y a des contrôles partout. Personne n'était au courant en dehors de ma cousine et son mari. Donc, on avait été avant pour savoir où étaient les toilettes, où je pouvais me changer. Quand on est parti, ça n'étonnait personne. Donc, pendant qu'on saoulait tout le monde, ils n'ont pas posé de questions. Et mon père qui me laisse loin, en sanglots, derrière son volant, en me disant, si quelque chose t'arrive, je ne me le pardonnerai jamais. Je lui ai dit, tu ne peux pas être responsable de moi, c'est toi qui me dis d'être responsable de ma vie. Tu fais le maximum que tu peux pour me sortir d'une situation où tu sais qu'un jour je vais péter un câble et je vais me retrouver en prison. Quelle est l'alternative, papa? Que j'aille ou que je reste ici et que je finisse tu es dans une prison. Quelle alternative? Donc, ma maman a prié, mon père a dit, on prie que tu tombes sur quelqu'un qui te laisse partir. Parce qu'avant de partir, comme ça, il faut une autorisation du gouvernement. Une autorisation de sortie. Ça doit être tamponné dans ton passeport. Il ne se dit pas de ne pas sortir du pays, tu sors. Mais tu as une permission du temps que tu as demandé. Tu ne reviens pas, tes parents, ou ceux qui te restent comme famille, responsables du fait que tu n'es pas revenu. Donc, je suis tombée sur un des potes de mon frère qui faisait de la musique ensemble. Et il m'a dit, cours, disparais. Et je suis partie, j'y ai couru. L'avion a décollé, je n'ai même pas su. C'est une hôtesse de l'air qui est venue me dire, mais madame, qu'est-ce que vous faites là? On est parti depuis plus d'une demi-heure. Je me suis levée, je me suis assise. Je n'ai même pas pu manger le repas qu'on m'a servi ce soir-là. J'avais froid, j'ai crinoté jusqu'à ce que j'atterrisse à Paris.
Est-ce que l'exil a laissé une empreinte sur votre voix?
Ah, forcément. Quand je suis arrivée, ça a été difficile pour moi de prendre des cours de chant parce que les profs ne comprenaient pas ma voix et moi, je ne savais même plus. Quelque part, je me disais, ma voix n'existe plus si je ne suis pas chez moi. Et dans l'exil, en fait, ce que ma voix m'a appris, c'est ma propre résilience. S'adapter. Être fluide et être élastique et utiliser la voix au maximum. Pour moi, aujourd'hui, ma voix, je l'ai portée tant que je pourrais la porter pour faire comprendre aux gens ce qu'on a choisi, on peut le transformer en quelque chose d'autre.
Christiane Taubira.
Alors, sans doute que les femmes ont été longtemps cantonnées au chant. Alors, il y a sans doute un paradoxe, parce que le chant est à la fois noble et marginal. Il est noble dans la mesure où il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une voix qui transporte une parole dans l'harmonie, dans la mélodie, etc. Donc le chant, je crois, a toujours eu un statut plutôt privilégié, un statut plutôt regardé avec bienveillance. D'ailleurs, il y a des sociétés d'oppression où les femmes n'ont pas le droit de chanter en public, par exemple. Elles peuvent éventuellement chanter chez elles, elles peuvent chanter des berceuses parce qu'elles sont assignées aux tâches familiales et ménagères, mais elles n'ont pas le droit de chanter en public. Et parfois, c'est un acte de rébellion maximale avec des risques considérables que des femmes s'autorisent à chanter en public. Donc, le chant a ce statut ambigu d'être un espace privilégié parce qu'il est réservé d'une certaine façon à une élite, hein, à des personnes qui ont ce don particulier de pouvoir chanter, et en même temps, c'est aussi un espace de réclusion. Les femmes ont été cantonnées à cela. Mais la question, c'est pas seulement de chanter. La question, c'est ce qu'on chante. C'est ce qu'on chante. Et les femmes chantent des choses absolument fantastiques. Elles chantent tous les sentiments possibles.
1963.
Inter, actualité. Pour un temps, quittons le labyrinthe de la diplomatie mondiale pour tendre l'oreille vers Birmingham, Alabama, la capitale du racisme américain. En effet, on a porté en terre la dépouille des trois petites filles noires tuées dimanche par une bombe raciste. Les obsèques se sont déroulées dans une atmosphère tendue, une atmosphère lourde, et l'on a assisté à des scènes insoutenables. Le service religieux était à peine commencé que la mère de l'une des petites victimes éclatait en sanglots et devait être conduite hors de l'église. C'est très pénible à entendre, mais cela nous fait mesurer l'horreur qui pèse à Birmingham.
Après l'attentat de Birmingham, la colère de Nina Simone éclate au grand jour. Frédéric Adrien.
Sa première réaction, c'est « je vais prendre une arme et je vais aller tuer des gens dans la rue ». Et son mari, qui quand même sait la manier, lui dit « mais bien sûr que non, tu vas pas aller tirer sur les gens dans la rue, tu as une arme, c'est ta musique, fais-le en musique, fais ta musique là-dessus ». Et c'est là qu'elle écrit ce qui devient sa plus grande chanson, probablement sa plus grande chanson politique, qui est « Mississippi Goddam ».
Et justement, c'est quoi cette chanson-là ?
Alors, cette chanson, c'est un truc très étonnant. D'abord, c'est une chanson qu'elle enregistre uniquement en public. Il n'y a pas de version studio ou alors très tardive. C'est une chanson qu'elle joue sur un rôle très, très... sur un registre très, très léger. Musicalement, c'est très soutillant. Et elle liste tout ce qui se passe, les bombardements, les attentats, ces choses-là, en faisant appel à beaucoup d'images venant de l'histoire du blues. C'est quelque chose qui est très, très bien écrit. Elle parle des chiens de l'enfer, elle parle toutes ces choses-là. Elle convoque beaucoup d'images simultanément et elle finit à chaque fois en maudissant le Mississippi, qui est évidemment le cœur du racisme et de la ségrégation afro-américaine à l'époque.
The name of this tune is Mississippi Goddamn. I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet.
hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there so I know, you keep on saying, go slow. Well, that's just the trouble, washing the windows, picking the cotton, you're just plain rotten. You thought I was kidding, didn't you? Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying, go slow. Go slow. Well, that's just the trouble. Desegregation, mass participation, unification. Do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality. Everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. God damn. That's it!
En 2023, le dernier album de la chanteuse inuit Elissa Pi est salué par le magazine Rolling Stone. Ses reprises en Inuktitut des chansons de Led Zeppelin, Metallica, Blondie et Cyndi Lauper donnent le frisson. La voix chantée d'Elissa Pi porte en elle les blessures des peuples du Nord, comme un écho au traumatisme du colonialisme et à la cruauté des pensionnats autochtones.
Ma voix, quand je chante, je pense à beaucoup plus de douleur. Je suis vraiment capable d'aller plus dans ces... Ouais, je l'ai découvert, hein. Ça fait 5 albums que j'ai fait maintenant. Et je pense que dans ma voix, dans mon cas, il y a une sorte de lourdeur que je porte, mais que j'essaie de trouver la lumière toujours. Alors, c'est cette dualité de la lumière et la noirceur qui m'habite constamment quand je chante. Aussi, cette envie d'aller vers raconter autrement nos peines, nos grandes peines, je vais dire pas nos peines, nos grandes peines. Et ça aussi, je le ressens, j'ai cette envie-là de le ressortir parce que j'ai vu trop de monde ne pas pouvoir exprimer parce que ça fait trop mal. Alors, c'est comme si j'ai cette envie-là de véhiculer, comme si je veux être un véhicule pour ça parce que j'ai cette capacité-là.
Tu dis que dans ta voix, il y a une part du trauma de ta communauté, de ta culture, et c'est des gros traumas. Comment ça se fait que lorsque tu chantes, c'est si doux?
Peut-être c'est inconscient, mais effectivement, c'est vrai. Les gens me disent souvent que je chante doucement, que j'ai une voix douce. Quand on essaie de décrire quelque chose qui fait mal à des gens qui ont mal, je pense que la douceur est tellement importante.
Une voix engagée doit savoir défendre avec émotion les paroles de ses chansons et plaider devant son public, un peu comme les ténors du barreau le font à la cour. L'avocat français, Patrick Maisonneuve.
C'est vrai que la voix de l'avocat, elle se situe quelque part chez les ténors. Je dirais à mi-chemin entre les voix très basses et aiguës, peut-être plutôt à mi-chemin, mais pas très aiguës. Je pense qu'une voix trop aiguë n'est vraiment pas recommandée en ce qui concerne les avocats. Il vaut mieux effectivement avoir des voix plus moyennes, plus graves en tous les cas que les voix aiguës. Mais ce qui est important aussi, c'est de moduler sa voix. Je veux dire que une pelloirie, c'est pas un cri permanent ou un chant permanent. Il n'y a pas de refrain non plus il peut y avoir des répétitions et pas vraiment des refrains. Et donc la voix, il faut savoir la moduler lorsque l'on plaide. On peut aller dans des tons très forts, assez violents même au niveau de la voix, qui peuvent se rapprocher du cri, mais aussi la voix calme, la voix modulée, de faire redescendre la pression. Il faut bien voir aussi qu'une chose, c'est que la voix basse permet dans un premier temps d'attirer l'attention, la concentration. Parce que si vous ne parlez pas si fort que ça, il va y avoir une concentration de la part de ceux qui écoutent, une plus grande vigilance pour entendre et donc comprendre. Et donc il faut savoir moduler tout cela. Il n'y a pas une note unique en matière de plaidoirie, voilà.
Est-ce que comme pour une chanson, souvent les chanteurs vont commencer de façon très douce, y aller vers un climax et ensuite redescendre?
C'est vrai que ça se rapproche très nettement, où la plaidoirie, elle ne commence pas vers quelque chose de fort ou de puissant. Elle va commencer par un échange, des paroles qui vont être plutôt dans le calme, dans l'approche, dans l'histoire que l'on commence à raconter, parce que l'on raconte finalement une histoire. Mais cette histoire, elle va connaître à la fois des malheurs, des douleurs. Souvent, devant la cour d'assises, c'est plutôt l'expression de douleur et de détresse. Et là, la voix, elle va augmenter, elle va baisser. Mais ça dépend aussi de ce que l'on cherche. Il n'y aura pas la même voix si vous racontez ce qui constitue des circonstances qui viennent à l'aide de l'accusé qui atténue sa responsabilité, que si vous venez dire qu'il n'est pas coupable, qu'il faut faire la démonstration qu'il n'est pas coupable. Ce ne sera pas dans le même ton, mais on raconte une histoire. Lorsque Barbara chante « Il pleut », La pluie, vous la sentez sur votre visage. Lorsque je plaide devant des jurés que ce jour-là, il pleuvait, il faut que je fasse en sorte que les jurés sentent également la pluie sur leur visage. Voilà le parallèle que je peux faire.
En sachant que j'allais venir vous voir, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au film Emilia Pérez où l'avocate chante. Est-ce que vous enviez quelque chose au chanteur?
Ça peut... le talon. Mais vous savez que il y a des avocats sur une illustration, un poème, une chanson, peuvent, pendant leur plaidoirie, chanter quelques secondes. C'est déjà arrivé. Et ça m'est déjà arrivé.
Est-ce que c'est secret? Est-ce qu'on peut savoir dans quel contexte?
Oh, c'était dans une affaire de terrorisme à l'époque, ça remonte à des années. Donc il y avait l'exemple d'un poète sur ce peuple-là, sur ces gens-là. Et donc les quelques mots sur ce poète m'amenaient à dire quelques notes sur ce poète en question, parce qu'il chantait ce poète.
Et ça a été quoi, la réaction à la cour?
Un petit peu étonné, mais pas hostile. Voilà. Et attentive. Automatiquement, parce que soit la cour se dit « c'est intéressant, pourquoi il ne parle de cela ?» Donc ils sont attentifs. Soit la cour se dit « il est devenu fou » et ils sont aussi attentifs. Donc voilà.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne.
La femme engagée, Christiane Taubira.
Je chante faux. Depuis que je suis enfant, je chante faux parce qu'on me l'a dit. On m'a dit à plusieurs reprises, oh, arrête là, tu chantes faux. Donc, mais je me suis toujours obstinée. Donc, je sais que je chante faux. Je pense que la voix chantée établit une relation particulière. Je ne fais pas de hiérarchie. Je ne crois pas que la voix chantée soit supérieure à la voix parlée, ni vice-versa. Par contre, il m'arrive de chanter non pas de façon préméditée, mais il m'arrive de chanter parce qu'à un moment où j'explique quelque chose, à un moment où je suis vraiment en relation avec le public, avec la salle, ce qui me vient, de la même façon que dans une bataille, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à certains moments, ce qui me vient, c'est soit un extrait de poème, soit une citation d'une philosophe ou d'un philosophe. Il arrive que dans des meetings, ce qui me vient, c'est un extrait de chanson. Et il y a des chansons très engagées. Je pense à une chanson de Jean Ferrat, par exemple. « C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux 100 fleurs du mois de mai. » Bon, ben, dans un meeting, je peux chanter une chanson comme ça. Elle dit complètement des choses que je peux avoir dites avant ou que je vais dire après.
« C'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux 100 fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade. camarade. C'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur battant la chamade, pour qu'il revive à jamais. Ce mari, cerise et grenade, aux cent fleurs du mois de mai.
Barbara n'a jamais versé dans la chanson un message, mais sa voix, à elle seule, est un vaisseau amiral. Sa chanson « Göttingen », qu'elle écrit à peine 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, est l'incarnation même de la résilience. L'auteur, Éric Chacour.
Quand une voix comme celle de Barbara chante la réconciliation avec l'Allemagne comme elle l'a fait à travers « Göttingen », c'est quelque chose d'extrêmement fort. Mais sans chercher à faire de la chanson un message, encore une fois. Göttingen, c'est une jolie histoire parce que Barbara, elle venait d'une famille juive qui avait fui beaucoup en France, qui s'était cachée. Et quand plusieurs décennies plus tard, elle reçoit une invitation pour aller chanter en Allemagne, bon, elle ne sautait pas d'enthousiasme non plus à l'idée d'y aller. Et elle a fini par se laisser convaincre et en débarquant dans la salle de concert, horreur, il n'y avait pas le piano à queue qu'elle avait demandé. Il n'y avait qu'un modeste piano droit, donc elle a fait un scandale. Et les jeunes qui étaient dans le public se sont mobilisés pour aller trouver... Alors, l'un d'eux avait dans sa famille un piano à queue. Ils sont tous allés déménager, sortir le piano droit, rentrer le piano à queue. Alors, le spectacle a commencé avec 2 heures de retard. Mais elle a été tellement touchée par ce geste-là qu'à la fin de son séjour à Göttingen, elle a improvisé comme ça dans un jardin une chanson qui deviendra la chanson Göttingen, qui est une chanson qui parle de la réconciliation, qui dit à la fin de la chanson « Faites que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine ». C'est une chanson d'ailleurs qu'elle enregistrera par la suite en allemand aussi, et c'est un symbole qui est très fort. Mais je pense que quand Barbara chantait ça, elle se racontait elle-même. Elle racontait sa propre réconciliation avec une certaine époque et avec l'Allemagne. Et bien sûr que ça peut être étendu et puis porté à l'échelle de deux nations qui se retrouvent. Mais je crois qu'avant tout, c'était quelque chose d'intime qu'elle racontait. Quand elle commence à chanter, bien sûr, ça n'est pas la Seine, ça n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, Göttingen. Ben, c'est une manière de nous demander à tous de sortir de notre regard très centré sur nous-mêmes et puis de voir de la beauté là où on voyait hier un ennemi.
Gewiss, dort gibt es keine Seine und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel was zu sagen blieben von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder und dabei blüht auch dort die Liebe. In Göttingen, mir scheint, wir sind weit schlechter kennen in puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga, Fritz und Franz. In Göttingen, ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vor Beginns. In Göttingen, gewiss, dort gibt es keine Szene. Doch den Wald nicht von Vincennes, doch sah ich nur so schöne Rosen. In Göttingen, das Morgengrau ist nicht das gleiche wie bei Verlaine, das Silberbleiche. Doch traurig stimmt es auch Franzosen. In Göttingen, kommt es mit Worten nicht mehr weiter, dann weiß es, Lächeln ist gescheiter. Es kann bei uns noch mehr erreichen, das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sag, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich. Die Kinder sind genau die gleichen in Paris wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe in Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen. Es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig blieben von Göttingen. von Göttingen. Es blühen wunderschöne Rosen in Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig bliebe von Göttingen.
Il y a des voix qui parlent pour parler, des voix qui sont parfois vérité, parfois mensonge. Et puis il y a ces voix rares et visionnaires qui cristallisent l'essence d'un peuple. Le Québec a la sienne. Personne n'a mieux chanté l'identité québécoise que Gilles Vigneault. Pour son pays, le petit garçon de Natashquan a toujours rêvé d'indépendance. Une indépendance nationaliste, oui, mais une indépendance ouverte sur le monde. La voix burinée de Gilles Vigneault occupe une place toute particulière dans le cœur de l'auteur et biologiste, Boucar Diouf.
Ce qu'il y a dans sa voix, c'est sa singularité. Je veux dire, on a beau dire, voilà les belles voix et les voix les moins belles, mais c'est ça, la singularité, c'est l'originalité. Parce que Vigneault, c'est un porte-voix. C'est, il y a la voix, mais il y a les porte-voix. Et moi, les porte-voix, je les aime beaucoup. C'est les gens qui disent, je vais être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Il a chanté la nature, il a chanté l'ouverture. À une époque où ça, c'était pas à la mode, c'est. C'était tellement pas à la mode quand il écrivait de ce grand pays solitaire. Je crie avant que de me taire. À tous les hommes de la terre, ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Ça, là, imagine, Francis, t'arrives de l'Afrique, tu vis un choc culturel, un choc linguistique et un choc thermique au Québec, et tu ouvres la radio et tu entends ça. Tu l'entends. Cette invitation-là, quelqu'un qui te dit « les humains sont de ma race », j'ai mis du temps et j'ai mélangé de l'espace pour toi. Installe-toi. C'est fantastique quand même. Quelle invitation extraordinaire. Et moi, ces mots-là, ça, quand je l'ai entendu, j'ai toujours dit, ah, j'aime ce monsieur. Je l'aime, je le trouve fantastique. J'aimerais un jour serrer la main de ce monsieur. Puis, ça m'a pris du temps, ça m'a pris 33 ans, mais j'ai fini par le faire. J'ai fini par lui serrer la main, puis lui dire merci. Merci parce que moi, là, Si j'ai épousé le Québec, si j'ai laissé entrer le Québec à ce point-là en moi, c'est en grande partie grâce à toi, tu sais. Grâce à toi, puis tu chantes pas juste les humains, tu chantes tout le monde. Tu n'es pas un humaniste. Les gens disent que tu es un humaniste, mais l'humanisme, c'est trop restreint. Tu es un écologiste. Gilles Vigneault fait partie du mouvement écologiste. L'écologisme, ça a le mérite d'être plus large que l'humaniste. C'est pas juste centré sur nous. Et pour moi, la voix, c'est ça aussi. C'est une aiguille. Elle peut servir à briser des choses. Elle peut être un couteau qui tranche la voix. Il y en a qui chantent des chansons en disant nous et les autres. Tu sais? Le bon et le méchant. Et il y a des gens qui utilisent leur voix comme aiguille pour tricoter. Tu sais? Et c'est ça, Vigo, c'est un rapiesseur. C'est une voix de rapiessement, de raccommodement, d'ouverture, d'invitation. C'est un géant. C'est une énorme voix. C'est un porte-voix extraordinaire et on se rendra compte de la grandeur de ce monsieur quand il va partir.
Ça me touche beaucoup ce que tu dis. J'aime Gilles Vigneault aussi profondément et pour moi, il incarne. C'est la voix du Québec et mon pays, en plus d'y penser, c'est au milieu des années 60
oui,
qu'il écrit ça.
Ça fait longtemps. De penser à ça en 1960, on n'était pas confronté à l'immigration de masse qu'on a maintenant. Et lui, déjà, à cette époque, il disait ça.
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie, où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'âme sera-t-elle, qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas mon jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas mon chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers de vie qui n'était ni pays, ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.
C'est en France que la chanteuse Nina Simone termine sa vie. Le journaliste Sofian Fanen.
Nina Simone quitte les États-Unis vers le milieu des années 70. Elle divorce avec son mari, qui était aussi son manager. Et en fait, elle doit partir. Elle doit partir parce que, alors déjà, elle a une dette au fisc compliquée. Et en plus, elle a peur pour elle-même. En fait, Martin Luther King a été assassiné, Malcolm X a été assassiné. Et dans la liste des grandes voix de la lutte des Noirs américains, Nina Simone, elle est assez haut. Donc, elle a vraiment peur, elle le dit. J'ai peur que le Ku Klux Klan, le FBI, n'importe qui me fasse du mal. Et donc, elle part à la Barbade. Elle part ensuite au Libéria. Et elle arrive à Paris en 1980, mais vraiment sans le sou. Il y a des témoignages de l'époque qui disent « Non, mais Nina Simone était presque SDF, en fait, à ce moment-là. » Et elle essaye de passer à autre chose. Mais en fait, Nina Simone, au début des années 80, c'est plus grand-chose. Le mouvement des droits civiques s'est éloigné. Cette colère des années 60-70 est moins compréhensible dans les années 80. Le son a beaucoup changé. Et surtout, elle est très malade. Elle est bipolaire, elle ne le sait pas. Elle sait qu'elle est malade, mais elle ne sait pas ce que c'est. Et c'est un peu le mythe de l'artiste intenable. Ah, oh, c'est Nina Simone, elle est intenable, et personne ne veut travailler avec elle, en fait. Parce qu'elle elle fait des concerts chaotiques. Il y a une histoire où elle débarque pour un concert au Palais des Glaces, à Paris, avec une machette. Elle est physiquement menaçante. Donc, elle devient radioactive. En fait, au début des années 80, c'est très compliqué.
Il y a une histoire tout à fait étonnante avec le parfum Chanel. J'aimerais que tu me racontes cette histoire-là.
En 1987, Chanel lance une publicité pour son parfum Chanel numéro 5 avec Carole Bouquet sur la musique de My Baby Just Cares For Me, chantée par Nina Simone, qui est un morceau vraiment secondaire, oublié dans son premier album, qu'elle ne chantait jamais sur scène, un morceau auquel elle ne tenait pas particulièrement. Et en 87, ce morceau se retrouve partout, parce que la publicité est un succès, on la voit vraiment partout, la musique colle parfaitement aux images, enfin, c'est une publicité qui marque l'époque. Et Nina Simone, elle, voit rouge, parce qu'on ne lui a rien demandé. En fait, tout simplement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de son premier album, ça se faisait beaucoup, elle a cédé l'ensemble de ses droits. En fait, on payait les artistes aux États-Unis à l'enregistrement. Et c'est tout. Aucun droit suivant sur les diffusions radio, télé, etc., etc. Voilà vos sous, au revoir, merci. Et donc, en 87, Nina Simone a dit « Non mais attendez, vous êtes en train de vous faire des sous ?» de la publicité sur ma chanson, c'est moi qui chante. Déjà, je touche rien, et en plus, personne ne m'a demandé. Donc, elle se retourne vers un label qui a racheté le label sur lequel elle a fait son premier album. Elle le menace, mais ce label lui doit pas grand-chose, lui donne quand même un petit peu de sous pour la calmer, parce qu'il valait mieux ne pas trop se fâcher avec Nina Simone à la fin des années 80, mais ça lui suffit pas. Et la fin de l'histoire est incroyable, c'est qu'un jour, en 88, elle doit jouer à l'Olympia, à Paris. Et elle a, à ce moment-là, un jeune ami à Paris. Et l'après-midi, elle lui dit « Viens, on va chez Chanel ». Et donc, les voilà partis en voiture, avenue Montaigne, chez Chanel. Et Nina Simone débarque, habillée dans une robe pas du tout Chanel. Il fait très chaud. Et elle se sert. Elle prend des robes, elle essaye des chaussures, elle essaye des robes, ça dure des heures. Les vendeuses sont polies, mais un peu encombrées par cette dame qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Et bref, elle finit par prendre des robes, des chaussures, etc. Et elle s'en va. Et là, on lui dit « Mais madame, il faut payer ». Et là, elle se retourne, elle dit « Mais vous savez qui je suis ? Je suis Nina Simone. Vous avez pris ma chanson sans me demander ? Donc moi, j'ai pris vos habits et je m'en vais ». Donc là, les vigiles, la bloquent, le magasin est fermé, hein, ils ont viré tout le monde, le magasin est fermé. Et ils appellent Karl Lagerfeld, qui à l'époque s'occupe de Chanel. Et Karl Lagerfeld vient, et il y a une discussion, ils ne se sont jamais rencontrés. Et Karl Lagerfeld, vraiment grand prince, dit « Nina, t'as raison, ce qu'on a fait, c'est pas correct, tout ça c'est pour moi ». Et c'est Karl Lagerfeld qui paye l'ensemble des habits, des chaussures, etc. Et Nina Simone part comme ça, dans sa voiture, avec des sacs pleins. Évidemment, tout ça n'avait pas de, comment dire, d'intérêt pour Nina Simone. Les robes, elle s'en moquait complètement. Elle les a données à des femmes de ménage, dans des hôtels, à des amis, etc. Elle a distribué toutes ses robes pendant plusieurs semaines. Et après, elle a porté vaguement la paire de chaussures qu'elle avait embarquée. Mais c'était une façon pour elle de retrouver sa dignité et de se faire respecter. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby don't care My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please this. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
C'était Histoire de voix, une série des médias francophones publics. À la narration, Anne Dorval. À la technique, Patrick Knoop. À la recherche, Marie-Christine Blais et Jean-Philippe Roux. Avec une musique originale de Joseph Marchand. Musicothécaire, Tina Gervais, adjoint à la réalisation, Pierre-Antoine. Cette émission est signée Francis Legault.